Bonjour à tous. Vu le monde présent, je sens la pression monter. Alors écoutez, je suis ravie que vous soyez avec nous pour cette table ronde qui va interroger les relations entre machines et vivants. Et j'ai pour discuter de cette question un panel formidable que je vais vous présenter très rapidement parce que mon idée, ça va être de les faire se présenter eux-mêmes plus précisément parce que comme on a un peu des spécialistes du cerveau et du cœur, je préfère qu'ils en parlent eux. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc j'ai Christophe Bernard ici présent, François Rouillet, René Ferreira et Raphaël. Ça y est, c'est de la bêtise. Gagné de Cassoniac. Je vais commencer par Christophe peut-être. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que tu fais avec cette machine extraordinaire qu'est le cerveau ?
Oui, bonjour. Je m'appelle Christophe Bernard, je suis directeur de recherche à l'INSERM. Et mon centre d'intérêt principal, c'est l'épilepsie ou les épilepsies. Et de façon plus générale, comprendre comment le cerveau fonctionne ou dysfonctionne. Et si j'ai été invité aujourd'hui, c'est à propos d'une technologie qu'on a développée pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et pour essayer de mieux le traiter. À la base, on a développé avec Georges Maliaras, qui est le spécialiste mondial de l'électronique organique, des micropuces qui sont capables d'enregistrer l'activité du cerveau avec des dispositifs qui ne sont pas du tout invasifs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire rentrer des choses qui sont 40 fois plus fines qu'un cheveau et qui peuvent enregistrer l'activité des cellules du cerveau qu'on appelle les neurones. Alors pourquoi ça c'est important ? Par exemple, si vous avez une personne qui est paralysée, on sait très bien qu'elles peuvent déclencher une commande motrice, mais simplement le message est plus transmis aux muscles. Et un des défis dans les neurosciences, c'est de pouvoir enregistrer le maximum des cellules du cerveau qui envoient cette commande motrice pour transmettre ça à un exosquelette qui va pouvoir faire les mouvements pour vous, pour marcher ou pour prendre un objet. Le problème qu'on a, ce n'est pas tellement de décoder le signal émis par le cerveau, c'est d'introduire dans le cerveau des éléments qui vont pouvoir enregistrer de façon non invasive, c'est-à-dire qui ne vont pas être rejetés comme des corps étrangers, mais qui vont pouvoir enregistrer sur de longue durée l'activité des neurones. Donc ça, c'est la technologie qu'on a développée pour enregistrer l'activité du cerveau dans le but, plus tard, d'utiliser ça pour des exosquelettes. Et la deuxième technologie qu'on a développée, c'est pour pouvoir traiter les pathologies cérébrales. Alors, quand vous prenez un médicament, le médicament, généralement, il va diffuser partout dans le corps. Il se trouve que pour rentrer dans le cerveau pour traiter des pathologies cérébrales, il va falloir qu'il passe la paroi des vaisseaux sanguins. Or, cette paroi est conçue pour être très hermétique. Donc, il y a très peu de molécules qui sont capables de traverser, de médicaments, qui sont capables de traverser la paroi des vaisseaux sanguins. C'est pour ça que l'industrie pharmaceutique a créé des médicaments qui sont extrêmement puissants, qui marchent très bien. Simplement, ils ont échoué en clinique parce qu'ils n'arrivaient pas à passer la paroi. La deuxième chose, problème de tous les médicaments du cerveau, c'est qu'une fois qu'ils ont passé la paroi des vaisseaux sanguins, ils vont aller traiter non seulement les régions malades du cerveau, mais aussi les régions saines. Et comme ce sont des substances actives, elles vont dérégler le fonctionnement des régions saines. C'est pour ça qu'on a des effets secondaires quand on prend un médicament, parce qu'on va toucher à la fois les régions saines et les régions malades. Et la technologie qu'on a développée, c'est une micropompe organique, donc qui est acceptée par le cerveau, qui va délivrer directement les molécules d'intérêt dans la région à traiter. Donc on a pu passer la barrière des vaisseaux sanguins, on est déjà au-delà, et on va traiter uniquement la région qui est malade sans affecter le fonctionnement des régions aux alentours. Voilà en deux mots ce qu'on essaye de faire.
Waouh ! François ?
Oui, alors je m'appelle François Rouillet, je suis pharmacien helvète. Et ça, c'est mon pied, mon orteil dans le domaine scientifique et médical. Et sur un autre front, celui de la science-fiction, je suis à la fois illustrateur, écrivain, critique, blogueur, etc., etc. Je suis très actif en matière de science-fiction. Et il se trouve que j'ai publié ce printemps un roman en deux volumes qui s'intitule Metakin. et dans lequel d'ailleurs je parle de technologies et de problématiques dont vient de parler mon voisin. C'est-à-dire que, par exemple, bon, d'abord un petit mot sur la métaquine, parce que le médicament dont je parle beaucoup dans le livre, qui sert un peu de fil conducteur, est un médicament purement imaginaire, mais dont la parenté avec des substances tout à fait existantes est flagrante. Il s'apparente d'une part à la Ritaline, ce fameux médicament que l'on donne aux enfants qui ont des troubles du comportement, du trouble de l'attention avec hyperactivité. Il s'apparente un peu à ce médicament-là. Il s'apparente aussi à une autre molécule qui s'appelle la kétamine, qui est d'abord un anesthésique local, mais qui a aussi des vertus hallucinogènes et dont on découvre plus récemment des propriétés assez étonnantes sur le cerveau. Et cette combinaison imaginaire de deux médicaments, et puis peut-être on peut en trouver d'autres, de médicaments réels, donne une formule absolument extraordinaire qui rend en particulier, puisqu'on le médicament a d'abord été dans mon roman commercialisé pour traiter des enfants hyperactifs ou en échec scolaire, et puis on s'aperçoit que le médicament rend les enfants miraculeusement studieux, obéissants, performants, dociles et autres qualificatifs que je pourrais énumérer ici. Ce qui fait que lorsque les adultes constatent ces effets miraculeux, ils vont s'y mettre aussi. Les profs sont obligés d'en prendre pour pouvoir tenir ces classes de petits génies. Ensuite, les enfants rentrent de l'école avec des résultats scolaires faramineux. Les parents se disent « impossible que je puisse me passer de cette substance, ça va me permettre de grimper 4 à 4 les échelons de mon entreprise ». Et finalement, ça se passe de main en main, de bouche à oreille, on parle du médicament, et finalement toute la société s'y met. Ça c'était le contexte, c'est le fil conducteur du roman, il y a plein d'autres thèmes que je ne vais pas aborder ici. Juste pour rejoindre la thématique sérieuse et scientifique de mon voisin de gauche, eh bien, dans mon roman, je parle également de toute une problématique de médicaments qui vont agir ou pas sur le cerveau en fonction de leur passage à travers cette fameuse barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire cette barrière entre le système sanguin général et la circulation cérébrale. Et toute une problématique, une partie du roman est basée sur ce passage ou pas du médicament dans la zone cérébrale. Et c'est, on parlait de dispositifs qui agissent sur d'implants sur le cerveau, etc. J'ai, pour ma part, conçu, dans le futur proche du roman, des dispositifs qui sont en quelque sorte des scanners cérébraux miniatures. Il existe des scanners actuellement très volumineux, très encombrants et encore pas très performants qui permettent de suivre l'activité cérébrale. La science-fiction permet d'extrapoler ces technologies et d'en faire des engins beaucoup plus performants. Dans mon roman, par exemple, j'imagine que les gens posent sur leur tête une simple calotte, une sorte de petit anneau qui fait le tour de leur boîte crânienne et puis qui lit avec beaucoup de précision toutes les activités cérébrales, ce qui permet aux usagers de ces calottes de donner des ordres directement à leur ordinateur sans avoir besoin de clavier, de souris, de joystick. Tout de suite, ils donnent l'information. Alors voilà en quelque sorte comment l'imagination de science-fiction rejoint le domaine scientifique.
Merci beaucoup François. René ?
Oui, bonjour à tous. Moi, je suis René Ferreira, je suis ingénieur à l'INSERM et j'ai inventé une machine. Alors, c'est un dispositif en fait, mais on va appeler ça une machine vu qu'on est dans une exposition sur la machine et science-fiction. Cette machine, en fait, elle est destinée à prolonger la durée du cœur, hors du corps, pendant une durée assez longue, autour d'une vingtaine d'heures. Alors, la question, c'est pourquoi inventer une telle machine ? Ça vient d'une problématique, en fait, au départ médicale, c'est parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui sont en attente de greffons, de greffes, et ils meurent sur des listes d'attente parce qu'on manque de greffons. Une des solutions pour obtenir plus de cœurs disponibles, ce serait d'aller les chercher à des situations plus lointaines, à l'échelle transeuropéenne, par exemple. Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que lorsque l'on prend un cœur, aujourd'hui, quand on prélève sur un individu qui est décédé, pour le greffer sur un individu qui est vivant, on a, les chirurgiens ont à peu près entre 2 et 6 heures, entre environ 3 heures pour greffer ce cœur. 4 heures, c'est la moyenne. Au-delà de ce timing-là, le cœur s'abîme et puis il est perdu pour la greffe et donc pour le patient. Donc l'idée, c'était d'avoir un système qui permet au cœur, lorsqu'il est prélevé du corps, de le mettre dans une machine qui va permettre de le garder en survie. Il va être vivant pendant une certaine période, le plus long possible, qui va permettre justement d'aller sur des distances assez longues. La machine que j'ai inventée, c'est un prototype. Donc moi, je travaille sur des cœurs d'animaux. Donc je prends des cochons qui sont des animaux qui sont très proches de l'homme pour plein de raisons. Mais la raison principale, c'est qu'ils ont un cœur qui est très proche en fait en termes d'anatomie et de physiologie. Et on arrive comme ça à conserver des cœurs de cochons jusqu'à 20 heures avant justement de pouvoir je greffe pas les cœurs, mais en tout cas, je les réanime pour vérifier leur fonction. Donc voilà, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une machine qui permette de prolonger le temps de conservation de ces organes. Alors cette problématique, elle est vraie pour le cœur, elle est vraie pour les reins, elle est vraie pour le foie, elle est vraie pour tous les organes, évidemment. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure, toutes les problématiques qui sont autour de la greffe d'organes et autour des organes que l'on met sur des machines en vue de greffe. Voilà.
Moi, je suis Raphaël Garnier de Cassagnac. Dans la vraie vie, je vais dire, je travaille avec une grosse machine. Je suis physicien des particules, donc je travaille au LHC, au CERN. Mais ce n'est pas vraiment pour ça que je suis là. J'ai écrit aussi deux romans de science-fiction et plusieurs nouvelles dans lesquelles j'aborde pas mal les deux versants, en fait, la machine dans le vivant et le vivant dans la machine. Donc, dans mon roman qui s'appelle Thinking Eternity, il y a deux mouvements. Enfin, il y a surtout un mouvement qui se popularise dans la société, qui est la greffe cybernétique. Donc c'est l'étape suivante de ce que vous racontez. Donc les gens commencent à avoir des greffes cybernétiques. Mon héros perd ses yeux pour une raison, dans un attentat neurologique, mais peu importe, et il bénéficie de la première greffe cybernétique oculaire. Donc c'est le premier à avoir des yeux cybernétiques, avec une vision qui d'abord est normale, mais qui éventuellement est augmentée et pose tout un tas de questions. Et dans le fond du roman, dans le background, comme on dit en anglais, du roman, il y a de plus en plus de gens qui bénéficient de greffes cybernétiques, les jambes, les mains. Alors, j'ai un de mes personnages qui est secondaire, qui est le sujet de la nouvelle qui est dans l'anthologie des Utopiales de cette année, qui est un personnage qui commence par avoir une greffe de cœur et il trouve ça génial. Il a l'impression qu'il est augmenté parce que c'est pas des cœurs humains, c'est des cœurs cybernétiques, donc avec des capacités éventuellement supérieures. Donc et il adore ça et il est pionnier. Il est très riche, milliardaire. Il est pionnier dans ce mouvement de greffe, et il finit par se greffer essentiellement tout ce que vous pouvez imaginer ou presque. Donc il a des bras, des jambes, il court plus vite. Donc ça, c'est le côté machine dans le vivant. Et en parallèle, dans le roman, j'ai aussi une autre classe de gens qui eux cherchent le transhumanisme en se transférant dans des ordinateurs. Donc ils disent, le vivant biologique, c'est terminé, moi je vais aller habiter dans la machine, donc machine avec réalité virtuelle. Donc ils quittent le monde et ils vont, pour devenir immortels essentiellement, injecter le vivant dans une machine. Voilà, en gros, les deux versants qu'il y a dans mon roman, quoi. Donc les deux, machine dans le vivant et vivant dans la machine.
On a l'impression, à vous entendre, qu'il y a une séparation entre vivant et machine. Vous la voyez où, la limite entre le vivant et la machine?
Moi, j'avais l'impression qu'il y avait une différence entre le cerveau de ce côté-là et le cœur de ce côté-là.
Aussi, c'était involontaire. Qui veut répondre?
Je veux bien prendre la parole pour dire qu'il n'y a pas de réponse. Le vivant, c'est impossible de définir le vivant, puisque c'est nous-mêmes qui le définissons. On est censé être vivant, donc forcément on a une version biaisée de ce qu'est le vivant. Donc il faut donner des définitions, et si tout le monde est d'accord sur cette définition, eh ben, on peut dire que c'est ça, le vivant. Alors, le vivant, est-ce que c'est un organisme qui est capable d'interagir avec son environnement? Pas forcément être capable de se reproduire, mais un organisme qui interagit avec ce qu'il y a à l'extérieur. Mais une machine peut faire ça aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est capable de se reproduire? Pas forcément. Une machine est aussi capable potentiellement de se reproduire. Une imprimante 3D peut générer d'autres imprimantes 3D si on la programme pour faire ça.
Ça marche, en fait, il se déclenche quand tu parles.
Vous m'entendez là? C'est bon? Ouais. C'est vrai que la question est pertinente de savoir qu'est-ce que le vivant. Je pense que c'est la première question qu'il faut vraiment se poser. Parce qu'avant de parler de la différence entre vivant et machine, il faudrait savoir ce que c'est qu'une machine. Ça, c'est peut-être plus facile à appréhender. Par contre, le vivant, les philosophes se sont cassés les dents dessus. Hein. Ils ont mis des définitions. Les physiciens ont essayé de définir le vivant. Les biologistes que nous sommes, on a essayé aussi. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur une vraie définition du vivant. C'est très, très compliqué. Je crois que c'est Saint-Augustin, au IVe siècle, qui a essayé de dire... quand on me pose pas la question, je vois en gros ce que c'est, et dès que je dois le définir, je sais plus. Et je crois qu'on en est un petit peu là. Alors, les biologistes, ils ont donné une définition qu'on a commencé à évoquer là, c'est-à-dire que c'est un organisme, en tout cas c'est un être qui est capable, ou une cellule qui est capable de capacité d'auto-reproduction, qui a un métabolisme, qui est capable de croître, qui est capable d'interagir avec son environnement. Mais du coup, ça pose le problème d'autres organismes qui existent, qui ne sont pas vivants et qui ont ce type de réaction. Les virus, par exemple, qui sont à la limite, qu'on dit, du vivant, sont capables de toutes ces réactions-là et pourtant on les estime vivants, non vivants, on ne sait pas trop. Ils sont vivants parfois, ils ne sont pas vivants à d'autres moments. Donc c'est assez compliqué. Voilà, déjà pour...
Oui, je peux abonder dans ce sens-là. La frontière, elle est floue. Hein. Moi, je sors d'une table ronde sur laquelle on a déduit que les machines à vapeur étaient vivantes, selon une définition donnée par Aristote, qui était essentiellement que, pour, à cette époque-là, donc une des très premières définitions du vivant, c'était que le vivant devait porter sa propre source d'énergie qui le meut. Et la machine à vapeur, c'est exactement ça. Elle s'alimente, elle mange du charbon, comme nous, on mange, et après, elle a sa propre source d'énergie est en elle et qui lui permet de se mouvoir. Donc évidemment, ce n'est pas ça, on est d'accord. Donc, la frontière, au final, elle est floue et en même temps, on sait tous ce que c'est que le vivant et la machine. On a tous une idée de ce que c'est. Et peut-être que ça suffit pour enclencher le débat. Et en revanche, à un moment, plus les machines vont se développer, plus elles vont ressembler au vivant et plus la frontière va devenir ténue. On peut aussi aborder le problème d'une autre façon en disant que finalement, le corps humain, c'est essentiellement une machine. Très perfectionné, mais il y a tout un tas de processus dans le corps humain qui sont très semblables à ce que font les machines.
Il y a une autre façon d'aborder la différence, ou du moins de comprendre ce que c'est que le vivant. Par définition, lorsqu'on est vivant, le pendant de ça, c'est qu'à un moment donné, on va mourir. Donc, voilà, si un organisme meurt, ou si un être, ou si quelque chose meurt, par définition, au préalable, il était vivant. Et donc, ça conduit à définir ce que c'est que la mort, pour le coup. Alors, c'est peut-être plus facile de définir ce que c'est que la mort que le vivant. Alors, la mort, on sait ce que c'est à peu près. Il y a une définition médicale qui existe. Parce que, vous savez, les juristes, ils ont eu besoin à un moment donné de dire bah, quand est-ce qu'on est vivant, quand est-ce qu'on est mort, parce que ça pose des problèmes juridiques permanents. Donc, il y a des définitions juridiques qui ont été données et qui sont issues, en fait, de constats médicaux. Et aujourd'hui, on sait ce que c'est qu'un être qui est vivant et un être qui est mort. D'ailleurs, ça a varié au cours des âges. Autrefois, c'est quand on ne respirait plus qu'on était considéré comme mort. Ensuite, c'est quand le cœur s'arrêtait qu'on est considéré comme mort. Et aujourd'hui, la définition de la mort, la vraie définition de la mort, c'est lorsque le cerveau a un électroencéphalogramme plat à échéance de 30 minutes successifs. Donc on estime qu'une personne est morte quand son cerveau est mort. Pour le reste, on peut avoir tous les organes qui fonctionnent très bien pendant très longtemps et être en état de mort. Ça pose d'ailleurs, pour revenir sur une histoire qui m'intéresse plus particulièrement sur la greffe, ça pose beaucoup de problèmes pour les greffes d'organes, parce que une des situations, c'est la suivante, c'est de dire, lorsqu'il y a une personne qui est décédée, donc mort cérébralement, c'est la vraie mort médicale de la mort, on cherche à savoir si cette personne est donneuse ou pas d'organes, potentiellement. Alors, elle portera un sur elle un petit badge ou un carnet qui dit, effectivement, je suis donneur, donc pour le coup, on ne sait pas. Elle est rarement affichée sur des dossiers ou sur des listings sur lesquels elle dit qu'elle est donneur d'organes, donc on ne sait toujours pas si elle est donneur d'organes. Mais, et même si la loi autorise le médecin à prélever ses organes, bon, on préfère s'en référer à sa famille. Alors on demande à la famille. Et à la famille, on dit, ça arrive tous les jours, hein, et on dit, voilà, en gros, je vous raconte une petite histoire qui arrive tous les jours. Voilà, bonjour madame, au téléphone, hein, ça se passe. Bonjour madame, bonjour monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Votre conjoint, votre enfant... Votre femme vient de décéder, mais ce qui se passe, c'est que son cœur bat encore et on aimerait prélever ses organes. Et la personne, au bout du fil, la plupart du temps, elle dit la chose suivante, elle dit, mais si le cœur bat encore, c'est qu'il est vivant, mon fils, mon mari, mon... Enfin. Et le médecin, au bout du fil, dit, non, 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 son cœur bat, mais il est mort. Alors, il faut lui expliquer ce qu'est la mort. La mort, aujourd'hui, madame, c'est quand le cerveau est décédé, mais que le cœur bat encore. Vous voyez, ça pose des problèmes, en fait... dans la vie de tous les jours, de prendre cette définition de la différence entre la vie et la mort. Alors ensuite, effectivement, on peut parler des machines. Alors peut-être qu'une machine, c'est quelque chose qui ne vit pas parce que ça ne meurt pas.
Alors j'ai une question pour toi. Est-ce que le cœur dans la machine, dans ta machine, qu'il maintient en survie, est-ce qu'il est vivant ?
Oui, on peut dire qu'il est vivant, tout à fait. Il est vivant à l'échelle de ses cellules, en tout cas.
Sauf que si tu arrêtes la machine, il meurt.
Si la machine s'arrête, au bout d'un certain temps, il va mourir, oui. Il va mettre un certain temps avant de dépérir, mais oui, il va mourir.
Moi, ça me pose question, ton histoire, parce que mes immortels, donc, s'ils existent un jour, il va falloir changer la définition du vivant, hein. Encore une fois.
Oui, il faudra peut-être faire évoluer la notion du vivant. Et aujourd'hui, la notion de la mort, c'est la mort cérébrale, encore une fois. Si un jour on arrive, mais dans un avenir de science-fiction, hein, alors ça, on n'est pas dans la science, si on arrive un jour à prouver ou à démontrer que l'injection, par exemple, de cellules souches ou la régénération du cerveau, par quels que soient les moyens qu'on puisse avoir, puisse régénérer le cerveau et redonner une vie au cerveau, à ce moment-là, on changera la définition de la mort. Et puis, être mort, ce ne sera pas effectivement avoir un électron, ce sera autre chose. On changera la définition de la mort à ce moment-là.
Il y a un organisme qui existe, au moins un organisme qui existe sur Terre, qui est immortel. C'est un organisme dont les cellules ne vieillissent pas. Et il a la capacité théorique, bon, on ne sait pas, puisqu'on ne peut pas le constater, de vivre éternellement. Et en plus, il est bourré de cellules souches qui sont capables de régénérer n'importe quelle partie de l'animal.
C'est pas toi.
Non, ça s'appelle un planaire, c'est un ver, c'est tout petit, ça vit dans les rivières. Il y en a partout dans le monde. Donc ça existe, théoriquement, ça existe. Un des gros projets de Google, c'est justement d'empêcher le vieillissement des cellules, parce que dans les cellules, on a un système qui compte le nombre de divisions cellulaires, et au bout d'un certain temps, ça s'arrête, et les cellules ne se divisent plus, c'est comme ça qu'on vieillit, et qu'on ne régénère plus les cellules de la peau, des organes, etc. Et Google travaille sur ce mécanisme-là pour l'empêcher, pour essayer de retarder le vieillissement. Puisque notre corps, je crois, est prévu pour vivre 130, pas plus de 130 ou 135 ans, à cause de ce mécanisme-là.
Quand on, si on est d'accord sur l'idée que finalement, entre vivant et machine, on a quelques difficultés de délimiter des frontières, est-ce qu'on peut voir les choses plutôt en interne-externe, tel que finalement le proposait le titre, à savoir qu'on va considérer qu'une machine est dans le vivant lorsqu'elle est dans notre corps, alors qu'au contraire, lorsqu'on a un corps dont on extrait un certain nombre d'éléments et qui est entouré, je pense au vaisseau piloté par un cerveau, typiquement, où là, on aura tendance à dire qu'on a un vivant dans une machine, alors que finalement, un cœur, bah, je voulais poser la question du cœur mécanique, un cœur mécanique qui fonctionnerait dans un être humain serait plutôt une machine dans du vivant. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée et comment vous positionnez par rapport à ça? Puis j'ai envie de parler d'avoir...
Vous parlez il y a une machine fantastique qui a été mise au point donc par une société qui s'appelle société Carmat, que vous avez dû entendre parler de cette société, qui a fabriqué donc un cœur artificiel. Et donc ils l'ont testé il y a à peu près un an de ça sur 4 patients. Ça a marché au-delà de leurs espérances parce qu'ils avaient un endpoint, enfin une limite de fonctionnement de la machine à environ un mois. Les machines ont fonctionné, les cœurs artificiels ont fonctionné chez le patient plus d'un mois, 9 mois pour certains. Et donc là, ils sont dans une autre phase aujourd'hui internationale où ils essaient de tester cette machine sur ces cœurs artificiels sur 20 patients. Donc on espère que ça va marcher. Mais alors, effectivement, là, on est dans le cas d'une machine, effectivement, dans du vivant. Mais le cœur est particulier parce que il a perdu sa symbolique. On va dire que, comme je disais tout à l'heure, quand on a défini le vivant, à un moment donné, on a cru que c'était le cœur qui définissait le vivant. Les médecins d'une certaine époque écoutaient le cœur de leurs patients pour savoir s'ils étaient morts ou vivants. Hein. C'était la manière la plus simple de le savoir. Et pourquoi le cœur représentait le vivant? Parce qu'il représentait aussi notre âme. En supposé qu'on en ait une, quand on a des émotions, notre cœur bat plus vite. Il suit notre parcours, notre cœur, notre parcours émotif. Donc on avait imaginé, on l'avait symbolisé, on lui avait donné toutes nos passions. Et il symbolisait en fait l'âme. Et c'est pour ça que pendant longtemps, on a hésité à prélever des cœurs chez des gens, parce qu'on pensait que ça pouvait, en prélevant un cœur, on pensait qu'on allait on allait tuer la personne et on allait, voilà, c'était pas possible. Donc, psychologiquement et symboliquement, on ne pouvait pas franchir ce pas. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas possible. On sait que c'est possible. On sait qu'on peut enlever un cœur, en remettre un autre, et tant qu'à faire, en mettre un qui soit mécanique. Parce qu'un cœur, c'est avant tout une pompe.
Alors, donc, sur une autre table ronde, j'avais un intervenant qui nous informait que on n'a longtemps pas compris à quoi servait le cœur. On savait qu'il était là, on l'entendait battre et tout ça, mais nos ancêtres ne comprenaient pas à quoi pouvait servir le cœur. Comme tu disais, on avait l'impression de sentir que les émotions passaient par là, donc on a pensé que c'était le siège des émotions et de l'âme. Et ce n'est qu'au moment de la révolution industrielle, vraisemblablement, parce qu'on a fabriqué des machines, des pompes, que les gens ont compris que le cœur, c'était en fait une pompe.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on lui a donné le nom de pompe, mais c'est Descartes, je crois, le premier qui l'a utilisé sous le terme de pompe, mais il avait raison, parce que c'est réellement, effectivement, un système de valves avec des cavités, voilà, avec des choses pneumatiques qui font, hydrauliques, qui font passer le sang d'une cavité à l'autre.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, comme pour le cœur, avoir un transfert de cerveau ?
Dans la machine ? Bon, alors, il y a pas mal d'écrivains de science-fiction qui ont imaginé cela. Je pense que c'est une vision extrêmement simpliste parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes un organisme. Déjà, c'est assez compliqué de comprendre tout ce qui se passe chez nous. En plus, on est un organisme qui interagit essentiellement avec l'environnement, avec d'autres personnes. Déjà, si on gomme ça, on gomme une grande partie de notre mode de fonctionnement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau n'existe pas tout seul là-haut et qu'il est là pour commander les choses à partir des informations qu'il reçoit. Il interagit avec le reste du corps. Avec le cœur, je sais pas trop quelles sont les branches de retour, mais vous avez sûrement entendu parler relativement nouveau domaine des sciences qui s'appelle le microbiote. On sait qu'il y a des bactéries dans nos intestins, que le nombre de bactéries dans l'intestin est supérieur au nombre de cellules du corps. Enfin, ce sont des organismes qui sont en symbiose avec nous, qui sont essentiels d'ailleurs à notre survie. Sans ce microbiote, notre système immunitaire ne fonctionnerait pas bien. Et on sait que lorsqu'il y a un désordre au niveau du microbiote, notre cerveau va mal fonctionner. Ça peut même créer des pathologies cérébrales, comme la dépression, s'il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans notre intestin, au niveau de ses cellules. Inversement, si on a une pathologie cérébrale, par exemple schizophrène ou même des autistes, il y a un déséquilibre qui se produit au niveau du microbiote et la digestion ne va pas se faire de façon correcte. Donc, c'est un tout. Il ne faut pas imaginer que le cerveau est déconnecté. Donc, même si on arrivait à copier, alors il y a le projet qui s'appelle Human Brain Project, qui est à terme de fabriquer un cerveau artificiel, c'est même pas le début du commencement. On aura fabriqué quelque chose, okay, un objet, une machine qui va faire quelque chose, mais si c'est détaché de tout le reste, ça ne correspondra pas du tout au fonctionnement du cerveau réel, qui reçoit un ensemble d'informations considérables et qui est influencé par tout ce qui se passe dans l'organisme. Donc, on peut reproduire un cerveau, entre guillemets, mais qui ne sera pas le vrai cerveau tel qu'il existe chez nous.
Oui, la science-fiction a ceci d'avantage sur la science, c'est qu'elle peut pousser le bouchon au-delà des contraintes de la science actuelle, des techniques, etc. Et vous parliez d'une idée un peu simpliste de transférer l'intelligence sur des dispositifs extérieurs, etc. L'exemple du microbiote montre que d'autres organismes dans le nôtre peuvent influencer notre chimie cérébrale et par là nos émotions, nos pensées, etc. Si on pousse un peu le bouchon avec l'imagination, on peut imaginer que des interfaces assez fines pour lire et interagir avec nos activités cérébrales pourraient, par analogie, dialoguer avec le cerveau, lui envoyer des ordres et voire même faire passer une partie de l'information cérébrale ailleurs. Dans mon roman, j'imagine que il y a des gens qui deviennent accros aux interfaces électroniques et puis qui, à un moment donné, ils développent d'abord des phénomènes d'addiction, ils n'arrivent pas à s'arrêter d'interagir avec leur ordinateur, ils passent du temps devant leur écran et grâce à ces calottes cérébrales, ils arrivent à interagir de façon très étroite avec leur machine et leurs ordinateurs. Et tout à coup, bizarrement, l'activité consciente semble désertée
leur personne et on ne sait pas où passe leur activité consciente. Et on se demande à ce moment-là s'il n'y a pas eu un transfert. Et c'est une des énigmes du roman que j'ai essayé de développer et de réfléchir à la possibilité que l'information contenue dans notre cerveau puisse se délocaliser. Comme vous avez des organismes qui peuvent interagir de l'extérieur, les bactéries de notre tube digestif en l'occurrence, eh bien vous pourriez avoir des dispositifs électroniques qui pourraient également interagir dans les deux sens avec le cerveau. Donc la science-fiction peut s'autoriser ce genre d'extrapolation.
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc moi, je l'ai fait dans mon bouquin de transférer des cerveaux dans des ordinateurs. Honnêtement, j'y crois pas trop. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai fait par besoin scénaristique. Quoi. J'avais besoin d'imaginer quelle était la. Enfin, j'avais besoin d'une seconde génération humaine, d'humains plus puissants que nous. J'ai décidé d'utiliser cette voie-là, mais il y en a d'autres. Il y a les humains augmentés. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Donc oui, je suis assez d'accord. Le transférer le cerveau dans un ordinateur, c'est pas pour demain. Alors, je me suis amusé, à contrario, à utiliser aussi ce qu'on appelle un peu l'intelligence du ventre ici ou là. Moi, j'appelais ça l'intelligence viscérale dans mon bouquin. Donc, j'ai renversé l'argument. Je me suis dit qu'on ne pourrait pas, mais encore une fois, j'y crois pas forcément. C'est de la science-fiction. Qu'on ne pourrait pas fabriquer de stricto sensu un cerveau, donc le projet de Google, on ne pourrait pas le faire parce que le cerveau se développe, et c'est vraiment en termes de développement, sur nos entrailles en fait, sur tout ce qu'on est, et que ce processus-là ne pourrait pas être simulé par Google. J'y crois pas non plus forcément, c'est pas forcément un frein. Donc j'ai renversé l'argument en utilisant l'intelligence viscérale comme un frein à l'intelligence artificielle. Et en revanche, quand le cerveau est complètement quand le cerveau est complètement développé, donc une fois que le cerveau est mature, alors on peut se poser la question de ce que ça veut dire, mais là, moi, je le rends transférable, mais honnêtement, je suis d'accord, j'y crois pas trop.
Alors, il y a une théorie, juste pour compléter, qui a été développée par Giulio Tononi, qui est un des plus grands neuroscientifiques au monde, qui est nobelisable, qui a développé une théorie de la conscience. Donc il y a plusieurs personnes, il y a Stanislas Dehaene qui a une théorie de la conscience en France et Giulio Tononi qui a une autre vision de la conscience. Et c'est une très belle théorie mathématique, relativement facile d'accès parce qu'il l'a très bien imagée. Et en fait, son argument, c'est de dire que même si on arrivait à copier exactement, c'est-à-dire qu'on prend une IRM de la plus haute résolution et qu'on mime, qu'on reconstitue tout le cerveau d'un individu dans les plus intimes détails, chaque molécule, la conscience n'y sera pas. C'est-à-dire que l'intelligence, enfin, on ne va pas parler d'intelligence artificielle, mais pour lui, il y a qu'est-ce que c'est l'intelligence ? Mais en tout cas, cette machine-là ne sera pas consciente, qui manquera de toute façon quelque chose, même si on copie tout à l'identique.
Très vite, moi, je les appelle justement des consciences artificielles par opposition aux intelligences artificielles qui, elles, ne sont pas construites. Mais effectivement,
ce que vous dites, ça me fait penser vraiment à peut-être une confusion, mais en tout cas pour moi, c'en est une un petit peu entre les deux rôles du cerveau. En fait, si le cerveau c'est le centre de notre vie, pour le coup, ce qu'on disait tout à l'heure pour le vivant, dans le cerveau, il y a deux choses en fait. Il y a une partie qui est structurelle et qui est fonctionnelle et qui dirige notre corps, qui fait toutes nos actions. Et puis, ce qui est associé à ça, souvent, c'est le fait qu'on imagine, à tort ou à raison, ça je ne sais pas, qu'il y a une âme qui est associée. Alors, c'est là où se fait la confusion et où la science-fiction, en fait, tire son parti. Je vais dire que depuis Descartes a différencié, en fait, chez l'homme, deux parties, la partie mécanique, et donc il a dit qu'on était dual, on était fait de deux parties. Une partie qui était entièrement mécanique, cerveau y compris, les organes, etc. C'est ce qui explique d'ailleurs que cette philosophie-là de Descartes nous a conduit aujourd'hui, j'en reparle au greffe d'organes, et à toute la science moderne, puisqu'on est des objets mécaniques. Et puis le cerveau, lui, il est un petit peu à part, du moins la transcendance du cerveau à travers l'âme, c'est un petit peu à part. C'est comme si l'âme était en quelque sorte embarquée dans le cerveau le temps de la vie, et puis que lors de la mort, l'âme peut se détacher, puis être récupérée. Alors si elle peut se détacher et être récupérée, on peut imaginer qu'elle puisse être récupérée par un système informatique, par un autre cerveau, par un autre individu. En fait, tout est possible après.
Sauf que la vraie question, c'est est-ce que c'est juste comme façon de voir les choses ? Je veux dire par là, est-ce qu'il y a bien une distinction entre l'âme et le corps ? Il y a une théorie scientifique qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, elle est très utilisée par les scientifiques. C'est de dire qu'en fait, même ce qui nous paraît être notre âme, ce qui nous paraît être nos émotions, ce qui nous paraît être notre conscience, etc., n'est finalement que le résultat en fait, de notre biochimie. Et ça n'existe que parce qu'on a des réactions biochimiques dans le cerveau et des réactions neuronales. Donc on a l'illusion effectivement d'avoir une âme, on a l'illusion qu'il y a des dieux qui sont au-dessus de nous et qui vont nous accueillir un jour, mais c'est peut-être qu'une illusion de notre cerveau. Vous voyez, si on prend un exemple très simple, ça s'appelle les propriétés émergentes du cerveau. Le cerveau est capable, comme ça, parce qu'il est très complexe, de générer quelque chose qui nous dépasse. Si on prend un exemple beaucoup plus simple, on va prendre l'exemple d'une montre, par exemple, pour les propriétés émergentes. Prenons une montre. Si on démonte une montre, par exemple, une montre d'autrefois, hein, une montre avec des cadrans, avec des ressorts, etc., et si on met ça sur une table, et si on montre à quelqu'un, un bon ingénieur qui n'a jamais vu de montre de sa vie, ce que ça, il va pouvoir définir. Il va même pouvoir, s'il est malin, pouvoir remonter cette montre. Mais à aucun moment, en regardant tous les éléments séparés, il ne pourra définir ce qu'est l'utilité d'une montre. Parce que la montre, une fois qu'elle est remontée et bien remontée, elle va donner quelque chose qui n'existe pas au préalable, qui est une propriété émergente de ces différents éléments. Elle va donner un truc qui s'appelle l'heure. Elle va donner le temps qui passe. Or, ce n'est pas défini dans chacun des éléments, ça. Vous voyez ? Alors, la théorie scientifique dit que la propriété émergente du cerveau, c'est de donner la conscience, c'est de donner une illusion, en fait, qu'on nous donne l'heure, en fait.
Pour l'exemple de la montre, je pense que s'il est suisse et qu'il a pris de la métakine, il le sait.
Je ne sais pas si je le sais, mais peut-être qu'on peut imaginer certaines choses. La science-fiction a deux types de construction spéculative, de projection. Une projection qui, certaines projections, c'est purement linéaire. On imagine que, voilà, on va faire des prothèses cybernétiques de plus en plus performantes. Et puis on projette comme ça. On va avoir des ordinateurs de plus en plus performants, etc. Et parfois, il y a comme ça, on pourrait presque appeler ça en matière d'imagination, et toute proportion gardée en comparant ça à la science, mais des espèces d'émergences imaginatives lorsque on fait des projections linéaires et que finalement on les confronte. Dans Metakin, par exemple, j'imagine effectivement que l'interaction des ordinateurs et des cerveaux humains devient de plus en plus fine. Mais parallèlement, j'imagine que les ordinateurs ne sont pas les ordinateurs que nous connaissons, qui sont des ordinateurs binaires, mais deviennent progressivement ces fameux ordinateurs dont on commence à voir l'émergence, qui sont les ordinateurs quantiques. Et pour faire court, les ordinateurs quantiques, ils calculent dans plusieurs dimensions à la fois. Ils s'affranchissent le temps du calcul, le temps de la computation, des lois que nous connaissons à l'échelon macroscopique, et en quelque sorte, ils s'abstraient du temps et de l'espace. Et que se passe-t-il lorsque se produira des interactions fines entre le cerveau humain et des ordinateurs quantiques ? Ça, c'est une idée de science-fiction intéressante que j'ai tenu à développer et qui peut-être fait déboucher sur certaines conceptions de la conscience et certains développements des conceptions de pensée, d'individualité, de rapport au temps et à l'espace, et éventuellement aussi à la mortalité. Et c'est très fascinant, et c'est là que la science-fiction peut vraiment se lâcher, comme on dit.
Alors, il y a un thème, parce que j'adore aussi la science-fiction, que j'ai jamais vu développer encore dans les livres, qui est en fait sur le véritable fonctionnement du cerveau, ce que l'on sait actuellement du fonctionnement du cerveau. En fait, le cerveau, ce n'est pas du tout comme un ordinateur qui a... c'est une machine de Turing qui est linéaire, qui fait chaque opération l'une après l'autre. Et c'est comme ça que c'est présenté. C'est-à-dire, je vais analyser l'environnement, je vais prendre une décision, je vais agir. Ça ne marche pas du tout comme ça, le cerveau. Le cerveau, c'est une machine prédictive. Et je vais vous expliquer comment ça... Et là, vous avez tous pensé que j'allais dire comment ça marche. En fait, quand je vous parle... Quand vous écoutez ce que je dis, votre cerveau va anticiper les prochains mots ou les prochaines syllabes. Pourquoi ? Ça lui permet de décoder l'information beaucoup plus rapidement. Donc, quand on décode l'environnement visuel, l'environnement auditif, n'importe quelle interaction que l'on a avec l'environnement, le cerveau essaye de prédire très rapidement ce qui va se passer par la suite. Encore une fois, c'est un système de base qui a été conçu, tous les animaux c'est pareil, pour survivre dans un environnement hostile où il faut prévoir par exemple l'attaque d'un tigre ou d'un prédateur. Donc le cerveau fonctionne comme ça, il fonctionne par anticipation. Et on rejoint la science-fiction. Mais aucun ordinateur, pour l'instant, n'est conçu pour essayer de prédire ce qui va se passer. C'est toujours un enchaînement linéaire avec le passé, le présent et puis et la suite. Mais ce n'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. Donc si on veut fabriquer une intelligence artificielle, il faudrait déjà concevoir une intelligence artificielle qui fonctionne sur la prédiction du futur immédiat. Et je suis d'accord aussi que ce qui est important, c'est que le cerveau fonctionne aussi avec des erreurs. Et les erreurs sont encodées. Donc, un des aspects des ordinateurs quantiques, c'est que la transmission de l'information n'est pas toujours fixe. Il y a des variations. Si vous jouez au tennis, vous pouvez être très très bon pour faire, par exemple, un passing. Vous faites chaque fois le passing, vous connaissez parfaitement le mouvement. Et puis, tout à coup, pof, il y a un bois. Vous voyez ça dans les tournois de tennis. La personne, Nadal, n'a pas de raison de faire un bois à ce moment-là. En fait, c'est un signal qui est aléatoire, qui se produit dans le cerveau, et puis tout à coup, c'est un mauvais mouvement qui est déclenché. Ce mouvement est très important pour le cerveau, pour redétecter un système d'erreur et pour pouvoir recorriger. Donc, on fait des erreurs, il y a un processus aléatoire qui se produit aussi dans le cerveau, qui est important pour son bon fonctionnement. Ce n'est pas une erreur... C'est une erreur raisonnée, en fait. Donc, voilà. Donc c'est ce que je voudrais voir aussi, parce que là, il y a tout un champ. Si on commence à envisager des ordinateurs qui essayent de prédire ce qui va se passer par la suite, on est dans un champ totalement différent.
Alors, effectivement, ce n'est pas qu'une vision uniquement de l'imagination, mais il y a en science actuellement des modèles de représentation de la conscience qui s'inspirent de la physique quantique. Et puis, il y a en biologie aussi des travaux très intéressants qui montrent que finalement, des phénomènes biologiques, comme par exemple la photosynthèse au niveau des végétaux, pourraient avoir une composante quantique. L'orientation de certains oiseaux migrateurs aussi. La perception des odeurs chez certains mammifères et certains animaux aussi. Il pourrait y avoir une composante quantique dans le fonctionnement de la biologie. Et par là, pourquoi pas dans la chimie cérébrale.
Alors ce que je vais proposer, peut-être, parce que je vois que le public est resté, c'est plutôt sympathique. Je voudrais savoir s'il y a des... Je pense qu'il y a des questions dans la salle, mais est-ce que vous pourriez vous manifester, voilà, pour qu'on essaye de se déplacer avec le micro. Ça va être un peu compliqué. Allons-y, on va prendre les premières questions.
Oui, bonjour. Alors d'abord, merci pour tout ça, c'était très intéressant. Vous parliez tout à l'heure de Google qui voulait donc modifier le vieillissement des cellules, si j'ai bien compris. Et je me demandais en fait si, de la même manière qu'on va aller modifier un code informatique, par exemple, est-ce qu'on pourrait finir par aller modifier le code du vivant pour en faire finalement une sorte de machine vivante ?
Modifier le code génétique, on sait faire chez des animaux, par exemple chez la mouche. On sait modifier le programme génétique chez la souris, on ne sait pas encore le faire chez l'homme. On peut le faire de façon sélective dans quelques cellules avec des virus. En fait, le virus est une machine fantastique, c'est un voyageur de commerce avec une valise dans laquelle on transporte le gène. Le virus va infecter la cellule et transmettre le gène qui doit être codé par la cellule. Voilà, ça, on sait faire. Modifier de façon globale le génome, il faut le faire dès le départ, dès la conception. Mais théoriquement, c'est possible. Pour le vieillissement, on ne sait pas du tout sur quoi il faut agir parce qu'on ne sait pas du tout comment ça marche. On voit les effets, mais on ne sait pas quelle est la cause au niveau moléculaire. Mais théoriquement, oui, c'est possible.
En tout cas, pour répondre personnellement à votre question, qui est une très, très bonne question, c'est il y a des sociétés, une société américaine qui est dirigée par Greg Benders, qui a fabriqué en fait une bactérie, un être vivant le plus simple possible, un être vivant simplifié, en y mettant les gènes principaux qui permettent justement la survie de ces... Ce n'est pas une bactérie, c'est un être vivant qui n'existe pas encore, du coup c'est un nouvel être vivant, on va dire, et qui a les capacités minimales en fait, pour survivre. Alors il travaille sur un projet comme ça, c'est assez ambitieux, c'est assez novateur, Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il fabrique lui-même ses séquences d'ADN pour pouvoir avoir un nouvel être vivant. Et cet être vivant, je dis vivant, est-ce que c'est une machine pour le coup? Parce qu'on est vraiment dans le cadre d'une fabrication pièce après pièce d'un nouvel individu. Quoi. C'est tout à fait intéressant.
Une autre question?
Oui, bonjour, merci. En fait, j'avais une question, mais ça va peut-être un peu répondre à la question qu'il y avait avant. C'était sur les ordinateurs biologiques, parce qu'il y a ça un an et demi, deux ans, je crois, il y a des chercheurs qui ont réussi à encoder sous forme d'ADN, donc avec un alphabet à quatre lettres. Je crois que c'est tout un passage de la Bible, et qu'ils ont été capables de l'encoder sous forme d'ADN, et ensuite de le séquencer pour le relire. Donc, stocker de l'information dans de l'ADN, on sait le faire maintenant. Et on a la capacité ensuite de faire reproduire cet ADN de génération en génération et d'avoir ainsi de la donnée qui va perdurer dans le temps. Voilà.
C'est quoi votre question? J'ai pas saisi le début de la...
C'était pas une question, c'était une remarque sur l'ordinateur biologique, en fait. Ouais. C'est qui est capable de stocker de l'information dans de l'ADN.
Ouais. Le but des cellules, enfin le but... C'est impropre comme terme, mais en tout cas, l'ADN, c'est bien une mémorisation en fait, d'un codage précis qui doit permettre la survie de la cellule. Hein. Donc effectivement, on est bien dans cette idée-là, hein, d'un codage, on va dire qui n'est pas informatique, mais pour le coup, qui a un codage avec quatre lettres pour pouvoir effectivement retranscrire ensuite l'information.
Oui, je pense que vous faites référence au codage ARN, pas au codage ADN, où il y a un alphabet qui est établi à partir de l'ARN. Et on peut reconstituer tout un langage. Il y a un très bon TED Talk là-dessus, mais je n'ai pas vu de développement après ça.
Si, et c'était bien sur de l'ADN et pas de l'ARN, où vraiment on était capable d'encoder. En fait, au lieu d'être sur un alphabet en binaire qui va être en 0 ou en 1, là on est sur un alphabet à 4 lettres, à CGT. Et à partir de cet alphabet, on peut encoder concrètement de l'information dans de l'ADN. Ça a été fait.
Hein. Ah, d'accord. Ça, okay. Mais là, ça, c'est autre chose, alors. Parce qu'il y a aussi l'utilisation de l'ARN pour faire un codage informatique beaucoup plus évolué en utilisant de l'ARN.
D'accord, OK.
Qui est un très bon TED Talk, un des meilleurs TED Talks que j'ai jamais vu. C'est extraordinaire.
D'autres questions dans la salle? Là-bas, tout au fond.
Oui, bonjour. Je voulais juste revenir sur la question intéressante qui a été abordée au début, la dichotomie entre machine et vivant. Est-ce que ce ne serait pas la question finalement du dessin intelligent? Je m'explique. Le vivant, c'est une machine, concrètement le corps humain, c'est une machine, on est d'accord là-dessus. Mais c'est le résultat du hasard, de la sérendipité. Et la machine, elle a été créée avec un but, un finalisme. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, en fait, c'est les tenants d'une finalité en fait sur l'humanité, sur l'humanisme, enfin, c'est les transhumanismes hein, qui parlent un peu comme ça. Pour le coup, il y a deux façons de voir les choses. Effectivement, on peut voir les choses avec finalité et dire qu'effectivement, on a des jambes pour marcher, on a des bras on a des mains pour saisir les choses, ou alors on a une vision plutôt, on va dire, évolutionniste. Et pour le coup, tout ce que l'on est, c'est le fruit du hasard et le fruit des sélections naturelles, tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin nécessairement d'un dessin intelligent. Et on n'a pas besoin nécessairement d'un architecte suprême pour fabriquer ce que l'on est. On est effectivement une machine, mais une machine qui s'est peut-être auto-programmée au cours de l'évolution sous les contraintes extérieures et sous les contraintes de l'évolution de la survie.
Moi, je pense que c'est une des définitions possibles, mais encore une fois, ça se trouve, elle va voler en éclats, cette définition, le jour où... Enfin, il y a des gens qui ont des scénarios comme ça, qui pensent qu'un jour, avec l'interconnexion de toutes les informations informatiques, hein, avec un Internet extrêmement partagé, tout ça, peut-être qu'une intelligence va surgir de ça sans qu'on l'ait prévu. Hein. Donc là, il faudra encore une fois changer la définition.
Oui, pour revenir à ce que tu disais, il y a pas mal de théories sur l'origine de la vie, et une des théories majeures, c'est le monde ARN. Et des chercheurs ont synthétisé des ARN qui sont capables de réactions enzymatiques et de synthétiser leurs propres protéines. Donc ça, ça a été fabriqué ex nihilo, ça n'existait pas. Ils ont simplement construit le brin d'ARN avec, en connaissant un peu ce que ça devait faire. Ils ont créé une machine qui produit des protéines. Mais on pourrait la complexifier et faire en sorte qu'elle soit entourée d'une membrane et qu'elle soit capable d'échanger avec son environnement. Est-ce que c'est une machine ? Est-ce que c'est vivant ? Et si après elle est capable d'évoluer, est-ce que ça devient du vivant ou est-ce que c'est toujours une machine parce qu'on l'a créée ? Je ne vois pas de frontières, moi.
Claire.
Claire.
Ou autrement dit, il y a plein de frontières floues. Voilà.
Une autre question qui risque d'être la dernière.
Bonjour, je suis par là, au milieu.
Oui.
On sait aujourd'hui que les influx nerveux, oui, vous pouvez mettre votre main, je suis là, qui viennent du cerveau, se transportent via des influx électriques, a priori, ce qui finalement rejoint beaucoup l'univers informatique et des ordinateurs. Donc on n'est peut-être pas si éloigné que ça d'un ordinateur. Et du coup, comme ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui manque peut-être à un PC, c'est un cerveau prédictif. Du coup, est-ce que le simple processeur manquant d'un ordinateur, c'est pas un cerveau humain ? Et du coup, pour rejoindre la science-fiction, est-ce que si un jour les ordinateurs se rendent compte de ça, est-ce qu'on va pas très vite arriver à la singularité ?
Ah, alors là, ça c'est un des thèmes que j'aime bien voir lire dans la science-fiction. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, je ne sais pas. De toute façon, on n'en est pas encore là. On n'a pas encore développé des machines assez complexes et puissantes pour arriver à ce point de singularité. Est-ce que ça va nous faire disparaître ? Je sais pas. C'est plutôt un écrivain qu'il faudrait poser cette question. Ouais.
Je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense qu'on n'en est pas là, contrairement à d'autres qui disent « il marche ». Contrairement à d'autres qui pensent que ça va arriver très très vite, moi je suis assez sceptique là-dessus. Ce qui est sûr pour moi, c'est que c'est un problème éthique en fait. Si on veut survivre, il va falloir faire attention à cette question-là à un moment ou à un autre. Il faudra pas oublier de mettre des boutons rouges pour débrancher ces bestioles-là. Si on veut pas, on ne sait pas ce qu'elles vont faire. Enfin, si elles existent un jour, si effectivement il y a des il y a des intelligences supérieures à nous qui existent déjà pour des problèmes spécifiques. La question, c'est de leur faire faire un panel de choses aussi large que ce qu'on sait faire nous. Hein, pour le Go, elles nous battent déjà, mais la machine qui joue au Go n'est pas capable de nous battre aux échecs. C'est une autre, etc. etc. Donc, une fois qu'on aura interconnecté tout ça, il faudra faire attention de ne pas leur donner les outils de nous foutre sur la gueule. C'est important, et donc essentiellement, c'est de garder un bouton rouge pour les arrêter. Et après, il y a une autre... Moi, je suis venu à la science-fiction d'une façon assez tordue, c'est en lisant Houellebecq, le tout dernier chapitre des particules élémentaires, qui a un chapitre de science-fiction en rupture avec ce qu'il y a avant, et où Houellebecq dit, alors là, pour le coup, c'est la génération suivante d'humains est fabriquée grâce à la biologie, donc ce sont des êtres humains immortels, et c'est une hypothèse qui est rarement... c'est une conséquence qui est rarement évoquée en science-fiction. Il dit que tout se passe très bien. C'est-à-dire que l'homme a créé son successeur et il s'éteint doucement. Comme il a créé son successeur qui est bien plus fort que lui, il arrête de se reproduire et l'espèce diminue, et va sans doute s'éteindre en ayant créé l'être supérieur qui, lui, n'est pas agressif. Ce qui est assez rare en général en science-fiction. C'est ce que j'ai fait moi, on crée un être supérieur qui nous a servi, qui au moins nous traite comme des vaches, au mieux, quoi. Là, non, l'être supérieur qui est alors lui biologique, donc on n'est plus du tout dans la machine, dans le vivant, pour le coup, il est respectueux de son inventeur et tout se passe très bien. Une petite note positive pour...
Est-ce que je peux compléter là-dessus ? Parce qu'il y a une histoire récente que dont vous avez entendu tous parler, c'est la Tesla qui a eu un accident, qui était en conduite automatique. Et en fait, bon, le système informatique n'a pas détecté qu'il y avait un camion et s'est encastré. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe si on programme maintenant la machine en cas d'accident, d'accident qui va se produire parce qu'il y a un piéton qui traverse la route. Maintenant, la voiture va calculer une trajectoire, mais qui va emplafonner la voiture dans le lampadaire qui est là. C'est la seule trajectoire possible pour éviter le piéton. Cette trajectoire va tuer le passager. comment vous programmez la machine ? Vous vous sacrifiez ou vous tuez la personne innocente ? C'est une question que l'ordinateur ne peut pas résoudre pour l'instant, sauf si on programme spécifiquement pour ça. Il faut savoir que l'homme réagit de façon différente dans cette situation. Si la personne a des passagers avec lui, elle va sacrifier le piéton. Si la personne est toute seule dans la voiture, elle va se sacrifier elle. Allez mimer ça avec un ordinateur. Avec une réaction inconsciente qui se produit en quelques millisecondes.
Ça va être la réflexion de la fin parce que l'heure a tourné très vite. Je vous remercie vraiment.